Les actualités via 95FM.
Ici Mark Bryson, voici votre 7 jours en 7 minutes. Après des années d'attente, le foyer d'hébergement pour femmes autochtones victimes de violences à Odanak ouvrira finalement ses portes cet automne. L'information a été confirmée par le directeur général du Conseil des Abénakis d'Odanak, Daniel G. Nolette. Le projet, évalué à 3,4 millions, qui a été annoncé en 2020, a connu un ralentissement majeur en raison de la difficulté de recruter une directrice pour la ressource d'aide. M. Nolette a tenu à préciser que maintenant que cet obstacle a été franchi, l'échéancier d'ouverture qu'ils ont établi sera respecté.
On garde le cap. On est directement dans les échéanciers qu'on avait prévus à la suite de l'embauche de la direction générale. Là. Mais non, tout se passe comme prévu. C'est vraiment là, la pandémie, puis ensuite la difficulté de recruter la direction générale de la ressource. C'est ça vraiment qui a retardé. Mais une fois ça que ça a été réalisé, ça a été franchi, bien, ça a suivi quand même le calendrier qu'on avait en tête. Là.
Le foyer d'une dizaine de chambres pourra donc finalement accueillir les femmes autochtones et leurs enfants. Le directeur général a jugé important de rappeler la symbolique entourant l'ouverture du centre d'aide et le message qui s'y rattache.
Il faut intervenir, il faut agir. Le silence, c'est inacceptable. On dit « Ah, c'est pas de mes affaires, je veux pas me mêler de mes affaires, c'est de nos affaires. » Quand on est témoin ou on est à notre... C'est pourtant notre connaissance qu'une personne ou une famille vit de la violence, mais il faut dénoncer, il faut aider, il faut apporter soutien. Il faut pas regarder de l'autre côté, puis il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc, c'est la responsabilité de tous.
Face au nouveau droit de douane annoncé, la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec a fait savoir que les compagnies d'ici n'en peuvent plus de cette incertitude économique. Dans les derniers jours, Donald Trump a annoncé que les États-Unis comptent imposer des droits de 50 % sur certains produits canadiens comme le lait et les pièces automobiles. La directrice générale de la Chambre, Méranie Roy, a rappelé qu'il y a déjà eu une surtaxe de 10 % plus tôt cette année. Mme Roy a ajouté que les entreprises sont déjà fragilisées et qu'elles ont besoin de solutions concrètes pour continuer à trouver des acheteurs sans en payer le prix. L'inquiétude persiste chez les citoyens de la MRC de Nicolet-Yamaska à la suite de l'implantation potentielle de 100 à 150 éoliennes sur le territoire résultant d'un appel d'offres d'Hydro-Québec. Quelques dizaines d'entre eux s'étaient déplacés afin d'intervenir lors du Conseil des maires de la MRC de mercredi dernier. Rappelons que le 17 juin dernier, une résolution a été adoptée exigeant que la Société d'État précise clairement les distances sécuritaires à respecter aux abords des éoliennes. En l'absence de Geneviève Dubois, le préfet suppléant Laurent Marcotte a tenu à faire le point.
On a eu une rencontre avec Hydro-Québec. C'est sûr que c'est suite à notre résolution qu'on avait adoptée. Ce qui était déterminé avec eux, il devrait avoir une rencontre avec les élus en quelque part à l'automne. Ensuite de ça, ils accepteraient d'en faire une aussi, un atelier avec la population. C'était une première pour eux, qui semblait dire, mais c'est à suivre. Mais en quelque part, on va rencontrer les élus DG, en quelque part en septembre, octobre. Puis ensuite de ça, il y aura une rencontre avec la population.
Récemment, Geneviève Dubois a publiquement dénoncé l'attitude d'Hydro-Québec dans le dossier. Celle qui est aussi mairesse de Nicolet a déploré le manque de règles claires et précises, notamment dans les distances à respecter près des éoliennes. Laurent Marcotte a aussi précisé durant la période de questions qu'il était difficile de se prononcer à l'encontre du projet d'Hydro-Québec dans la mesure où les agriculteurs du centre du Québec adhèrent en grande partie à la future production éolienne. Cependant, à l'instar des élus de la MRC, les producteurs agricoles demandent eux aussi plus de clarté sur les distances à respecter dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Le début des travaux pour le projet de 72 nouvelles portes à Gentilly, évalué à 27,6 millions, est retardé de quelques mois. Au début de l'année, le directeur du développement de la Société immobilière Gentilly, Denis Bergeron, avait mentionné que les travaux devaient débuter au printemps. Il devrait finalement se faire au cours des prochaines semaines. Selon lui, quelques lenteurs administratives avec la ville de Bécancour ont retardé la construction. La directrice de la rue Bécancour, Sarah Jacques, a déploré qu'il manque de logements abordables sur le territoire. Bien que la grande partie des déménagements est terminée, les inquiétudes de trouver un logement à un prix raisonnable ne disparaissent pas pour ceux qui envisagent de déménager prochainement.
Pas de logements sociaux intermédiaires là, qui peuvent aider à la construction de logements qui sont malheureusement trop cher pour les besoins des personnes en précarisation actuellement, mais c'est sûr, avoir plus de logements sociaux, c'est certainement quelque chose, un élément qui aiderait beaucoup à faire diminuer dans les loyers pour qu'ils soient un petit peu plus abordables, puis aussi pour élargir l'offre de logements sociaux, là, parce qu'on n'en a pas suffisamment, en tout cas à Bécancour, là, c'est sûr que mais pas suffisamment qui sont abordables.
L'air est jugé de bonne qualité dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. En conférence de presse mardi, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a dévoilé le bilan mi-annuel de son programme de surveillance. Entre novembre 2025 et juin 2026, les mesures réalisées dans le cadre de son programme n'ont montré aucun dépassement des limites ou seuils de référence pour les particules fines et pour les métaux analysés. Les résultats ont réjoui le président-directeur général de la SPIB, Donald Olivier.
C'est en fonction de ce qu'on pensait, mais tu sais, ce qui n'a jamais été fait, c'est de présenter ça aux citoyens. Fait que donc, aujourd'hui, on vous présente les résultats préliminaires à vous, les médias. Après une année, on va vraiment avoir un rapport vulgarisé pour les citoyens, puis qu'on va aller au-devant des citoyens pour leur présenter ça. Fait que ça a jamais été fait, puis on veut vraiment pas qu'il y ait de perception, qu'il y ait des trucs qui sont cachés. Fait que donc, on va aller au-delà de juste écrire un rapport, on va aller vraiment au-devant des gens pour le présenter.
Au cours des 6 premiers mois du programme, un seul dépassement a été observé pour les particules fines dans l'air. Il était attribuable à un épisode de brouillard et non aux activités industrielles des entreprises du secteur. Même si les résultats ne devaient démontrer aucun dépassement durant les 5 ans prévus au programme, M. Olivier a fait part des intentions de la SPIB de reconduire la surveillance au-delà de cette période.
On va continuer parce que s'il n'y a rien de négatif cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de quoi de négatif dans le futur. Ça fait que, tu sais, je ne pense pas que ce serait très responsable d'arrêter le programme, mais assurément, je pense qu'on va se permettre de le réviser. Si jamais c'était le cas, mettons, si l'éventualité que vous amenez arrivait, je pense qu'il faudrait se questionner si on a le bon programme, mais assurément, il ne faudrait pas annuler tout ça, là.
Un bilan annuel complet sera disponible au début de 2027. Une réfection éventuelle du rang Saint-Joseph à Deschaillons-sur-Saint-Laurent va nécessairement mener à une hausse de taxes pendant plusieurs années. C'est ce qu'a prédit le maire Christian Barry concernant le coût des travaux qui sont évalués à près de 3 millions. De ce montant, environ le tiers sera payé par la municipalité elle-même pour ce rang qui s'est dégradé en raison du détour provoqué par la fermeture d'environ un an de la route 132. M. Barry a toutefois affirmé qu'ils tenteront d'alléger l'impact pour les contribuables autant que possible.
On essaie de faire le moins d'impact possible. On fait tout ce qu'on peut faire en régie et puis les surplus qu'on peut utiliser pour mettre là-dedans, mais à un moment donné, il y a des limites. Là, parce que 30 % de 3 millions, c'est quand même beaucoup d'argent.
Alors voilà ce qui complète notre 7 jours en 7 minutes. Pour plus d'informations en tout temps, rendez-vous sur notre site web, le via.fr.